RAM Radio Arte Mobile présente phase 2, artiste versus producteur. Extrait hebdomadaire des matériaux d'archives. DAC, dénomination artistique condivisa, dénomination artistique partagée. 20 rencontres pour penser aux connexions entre art contemporain et entreprise. Un projet réalisé de RAM Radio Arte Mobile du 2012 au 2017. Reproposé dans le contexte d'aujourd'hui, que nous sommes dans la phase 2. DAC 5, passage de Retz, Paris. Art et entreprise, enregistré par RAM le 14 mai 2012. Les extraits en ordre d'apparition. Fabrice Hibert, artiste. Jacqueline Friedman, propriétaire du passage de Retz, qui nous donne hospitalité aujourd'hui pour la table de DAC. Yona Friedman, architecte et urbaniste. Dora Stiefelmeier, directrice de RAM Radio Arte Mobile. Pierre-Jean Galbin, directeur de l'École des Beaux-Arts de Nantes. Mélanie Rio, galeriste de Nantes. Lorenzo Benedetti, commissaire et directeur de la Flesaal de Middelburg en Hollande. Arnaud Lejeune, producteur. Stanislas Potier, du Crédit Agricole. Jean-Baptiste Caval, artiste. Françoise Quichon, directrice Centre National de Recherche sur le Verre et les Arts Plastiques de Marseille. Arnaud Lejeune, producteur. Juliana Settari, présidente de la Dena Foundation.
Fabrice Hibert.
L'idée, c'est de nous dire qu'on a toujours envie de faire des œuvres d'art et comment les produire. Donc, ce petit rassemblement aujourd'hui, c'est pour nous mettre en relation et surtout pour mettre en relation tous nos petits projets qu'on a depuis pas mal d'années avec Coolways, avec DAC et avec le projet d'école que je mets en place à Nantes avec Pierre-Jean, avec Rosen, et donc on va se présenter chacun notre tour. Alors aujourd'hui le rassemblement se fait ici au passage de Retz parce que Jacqueline Friedman connaît le projet depuis le début et s'est engagée depuis le début à faire des projets avec des artistes, et donc j'aimerais que Jacqueline que tu présentes un petit peu.
Jacqueline Friedman.
Je dois dire effectivement que le passage de Retz existe depuis 18 ans. Et je l'ai volontairement appelé passage pour que ce soit une idée de plus. L'architecture voulait que ce soit un endroit qui soit entre deux rues. Avec de surcroît la chance de me trouver avec un bâtiment très ancien du XVIIe siècle, qui évidemment a brûlé, a été reconstruit au XIXe siècle et a suivi la destinée du centre de Paris au XIXe siècle, qui est passé de résidence aristocratique à des artisans, à des endroits plus industrieux. Et ici, c'était le lieu de la fabrique de jouets de mon père. Et mon père était un ingénieur chimiste spécial qui avait fait un diplôme sur les polymères, qu'on appelle plus vulgairement les matières plastiques, et il a appliqué son savoir à faire des jouets par injection en matière plastique. Et je dois dire que, vous savez, pour faire un jouet, il y a une règle d'or à observer, c'est le client. Le client, c'est l'enfant, c'est un sujet, c'est un être vivant. Cette personne ne supporte comme jouet que quelque chose qui soit animé, qui bouge, qui fasse de la couleur et peut-être du bruit et qui soit peut-être dans la découverte tactile du toucher, douce, repoussant ou amusant. Ça, c'est un cahier des charges. Quand on fait des matières plastiques dans les presses injectées, ce sont des moules d'une extrême précision et qui coûtent en investissement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est une gravure de fond qui doit être faite au millimètre pour que l'objet sorte parfaitement fait après avoir été, la matière plastique après avoir été chauffée, elle ressort, elle est éjectée par un point d'injection qu'on coupe ensuite. Et je voulais dire ça parce que l'école industrielle
C'est une école de précision. Mais comme ce sont souvent des investissements lourds, les gens ont tendance, l'industriel a tendance à rester en soi, devant son investissement, devant le retour de son investissement par une production de série industrielle, et il est bloqué, et sa rencontre avec peut-être un artiste, un créateur, c'est de se rappeler qu'un produit est créé pour l'homme, pour un être vivant, et qu'il faut l'intéresser, le séduire par une créativité, par un regard extérieur, même s'il faut changer le piston et la machine. Et c'est pour ça que certainement, aujourd'hui, avec l'art contemporain qui est une réflexion sur la société actuelle, l'artiste a besoin des industriels, mais je voudrais rappeler combien les industriels ont besoin d'un regard extérieur, pas seulement d'un regard actif, d'un regard créatif. Alors ça peut aller à l'infini. Vous savez, l'un des grands fabricants de jouets au monde a été une société de jouets pour le, dit pour le premier âge, qui respectait ce que je viens de vous dire, le bruit, la couleur, la toucher, le mouvement, qui s'appelle Fisher-Price. Et le créateur, M. Fisher, avait l'habitude de dire quelle est la différence entre un enfant et un adulte. The size of the toy. Et c'est très vrai, et je pense aussi que dans nos rapports entre... J'ai cité un exemple industriel parce que j'ai voulu parler du lieu où nous nous trouvons. Mais je pense qu'entre industriel ou bien producteur, l'artiste est productif, et le producteur doit mettre en dialogue sa compétence technique, son savoir-faire, et voir où les idées de l'artiste, quelquefois, peuvent le pousser, à travers les données qu'il a déjà, à imaginer d'autres formes de savoir-faire dont peut-être il a, par les outils dont il dispose, le savoir, ou pas encore. Voilà. Donc je pense que moi, l'idée, c'était de restaurer ici un immeuble qui était devenu un immeuble qui avait perdu son histoire, lui redonner son histoire. Et j'ai voulu garder cet espace, le passage d'Orès, pour faire, en faire une suite d'événements temporaires et permettre aux gens de se poser ici et de repartir et de rebondir vers autre chose. Voilà. Moi, je suis peut-être productrice ou metteur à disposition d'un lieu. Quelquefois, le lieu s'accompagne d'une mise en espace visuel à travers une exposition. Et je suis toujours curieuse, à l'affût et très reconnaissante des idées que je peux recevoir. Voilà, en tant que producteur ou directrice de maison de passe, je ne sais pas.
Yona Friedman.
Je ne sais pas, c'est vous, vous savez, je suis un peu une personne dépaysée. D'accord, je suis officier à mon architecte, je suis diplômé, etc. Mais je ne fais pas l'architecture comme les architectes, je ne suis pas artiste, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas sociologue, un animal normal. Et, tout simplement, nous avons maintenant un président normal, donc c'est la même ligne. Et je simplement essaye de s'occuper avec des gens, avec des choses qui m'intéressent. Vous le voyez, je pense, on utilise beaucoup le mot culture. Pour moi, la culture, c'est rien, c'est le comportement quotidien et le style de comportement quotidien. Évidemment, en Chine, pour cette même genre de réunion, il y aurait des différences, des comportements quotidiens chinois. Et donc, c'est dans la ligne que je dis que je suis un animal normal. Tout le monde est normal. Bien, la difficulté avec la culture, c'est qu'on nous intimide, on nous interdit, pas du tout policièrement, mais le précis. c'est le maman qui dit, mais on ne fait pas, c'est pas bien faire comme ça. Et c'est qu'est-ce qui passe partout. Alors, si je pense que une chose que j'essaie de faire, peut-être j'ai un certain courage, j'ose, sans prétendre que j'ai raison, vous savez, et sans faire de ça un programme. Et je le vois que j'ai souvent beaucoup de visiteurs, des étudiants, etc. Je n'ai rien à leur dire, sauf qu'ils doivent oser. On ne doit pas avoir peur de faire des bêtises ou des absurdités. C'est peut-être pas absurde dans la langue. Et bien, l'opération que j'essaie maintenant de lancer, c'est. Ça a été cette petite introduction, une opération, l'architecture sans bâtiment. Je crois que c'est. On construit trop. Je ne critique pas seulement la quantité, mais on peut faire. Peut-être dans l'architecture, c'est pas le bâtiment qui est intéressant, c'est l'organisation de l'espace, par exemple, le comportement dans l'espace, sûrement. Et maintenant, j'ai une petite démonstration à l'île des impressionnistes à Chapeau, qui a le titre « Un musée sans bâtiment ». Et en effet, on a bien, il y a deux éléments pour la démonstration que j'ai fait déjà avant l'Italie, que j'appelle ça veut dire c'est un musée, c'est un seul bâtiment, c'est une seule chose à exposer, évidemment. Et bien, ça consiste de vitrines de plexiglas, de bois de plexiglas. Et par exemple, à Como, à Marseille, les gens ont apporté des choses qu'est-ce qu'ils veulent exposer. Dans ces cas à Chapeau, c'est pas moi qui j'ai ni l'arrangement des vitrines, ni les objets. C'est bien. Et ça a été fait. Donc, je ne prends pas l'attitude de l'artiste, je ne juge pas, et c'est différent, je ne juge pas de valeur, mais pour moi, l'important que les gens osent faire dans l'autre chose, c'est bien, c'est une structure à base vernis, moi j'appelle ça une iconostase, ça ne sert à rien que pour mettre dedans les choses qu'on veut exposer. Bien, à Chapeau, on a mis des boîtes de carton, mais ça peut être n'importe quoi. On peut mettre dedans des animaux empaillés ou des photos de politiciens, c'est complètement égal. Et j'ai un autre projet dans le même genre, c'est à Varsovie. À Varsovie, ils ont eu un grand projet, musée d'art contemporain. Il y avait ce magnifique projet avec du marbre blanc, tout ce que vous voulez. Il y a tout sauf l'argent. Et donc, ils ont accepté ce principe du commerce. Donc, ils ont simplement des instructions techniques, comme de l'instruction des plombiers. Ils verront comme ils veulent, ils utiliseront ça, ça coûte un 20e, un 50e de projet original. Donc ils le font, c'est très bien. C'est aussi une autre chose. Par exemple, disons qu'il y a une exposition d'un artiste. Oui, mais ce n'est pas seulement l'objet, mais comment on le présente. Et vous voyez, s'il y a un bâtiment, mettons le Centre Pompidou à titre d'exemple, c'est le commissaire de l'exposition est un prisonnier. On ne peut présenter seulement utilisant les surfaces des murs et n'importe quoi. Bien, Et moi, je suis intéressé que le commissaire puisse faire en accord avec l'artiste une composition. Donc, le musée de Varsovie, ça peut avoir une autre forme tous les 6 mois, s'il veut. C'est facile à démonter et remonter. Et c'est la même chose qu'est-ce qu'il y a surtout. On essaiera que le mois prochain, on transformera. Et on transformera, on mettra des autres objets. Vous le voyez, c'est peut-être, quand je parlais de culture, c'est le style de quotidien. Nous n'avons pas encore le style de notre quotidien, on l'a perdu. Il y avait une période, et maintenant, nous continuons. On est dans le 19e siècle. Et c'est pourquoi pas, c'est un grand siècle. Mais c'est été le sommet de la rigidité. La nouvelle technologie a été déjà là. Et bien, regardez, je donne un autre exemple, je parlais du musée. C'est quand il y avait le projet de Jeux olympiques à Paris. Moi, j'ai proposé quelque chose de simple. Ça ne vaut pas la peine construire, n'est-ce pas? Il y a les Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, vous mettez des tribunes à côté. C'est 2 fois par an. On connaît comment ça fonctionne comme stade. Le 14 juillet, l'arrivée de Tour de France. Ça fonctionne magnifiquement. On a des plus formidables stades de France, les Champs-Élysées, l'Esplanade des Invalides. Mais on a de nouveau depuis le 19e siècle, c'est pas adapté à notre quotidien. Les Champs-Élysées avec une formidable perspective. Oui, mais personne ne le voit parce que c'est les voitures qui sont au centre. C'est peut-être les piétons qui devront être au centre. La même chose, on est venu maintenant par l'esplanade des Invalides. Il y a une large chaussée au milieu. Il y a une formidable perspective, sinon personne n'a pas le temps de le voir parce que vous êtes dans la voiture. Je le crois que c'est peut-être le nouveau élément. J'ai beaucoup d'exemples. Quand j'ai étudié l'architecture, on nous a dit, bien, c'est nécessaire des forums, grandes places, pour que les gens se rencontrent. Nous, les gens se rencontrent avec leur téléphone de proche. On est complètement transformés. On a vu maintenant, dans notre époque, des gens faire des conversations dans un supermarché. C'est vrai qu'ils ont, autrefois, le marché, c'était où les gens fait des conversations en même temps. C'est tout un changement. Et je reviens maintenant à un de mes projets préférés. Vous le savez, notre ancien président lançait l'idée de Grand Paris. Alors, moi, je suis furieusement contre. C'est l'absurde. Et c'est une contre-proposition qui est en réalité que simple. Je l'appelle Métropole Europe. C'est la plus grande ville du monde avec 40 millions d'habitants. Les banlieues s'appellent Londres, Paris et Bruxelles. Mais c'est une énorme ville avec un métro de 2 heures de distance. Et une station de RER est aussi proche du centre de Paris que Londres ou Bruxelles. Ça veut dire, au lieu de construire et faire les spéculations immobilières qui est le projet Grand Paris, utiliser cette. Bien, j'ai proposé ça naïvement en 60 et bien. Ça a été encore difficile. Mais maintenant, l'infrastructure est là. Vous l'avez, c'est... Alors, la nécessité, c'est un pas politique. Les cartes oranges TGV, c'est tout. Les cartes oranges TGV, vous avez les métropoles d'Europe. Sans construire, sans investir, ça veut dire qu'on peut circuler entre les banlieues de métropole Europe à un prix raisonnable, pourquoi pas un abonnement à 10 déplacements par mois, c'est une carte orange, c'est facile. Et alors, ça permet aux gens de rester dans leur ancienne ville, ce qui est la réalité, au lieu de construire. Et c'est toujours réutiliser ce qui existe et tenir compte de l'idée de quotidien des gens. C'est ce qui m'intéresse.
Fabrice Hibert.
En fait, ce que vous nous proposez, c'est l'idée qu'on regarde le monde différemment d'un autre point de vue, ce qui fait que ça... Et en fait, il faut trouver des moyens pour qu'on nous le montre différemment. Et toutes les organisations qu'on fait autour de la DAC, l'école, autour de plein d'événements comme ça, on essaie de mettre en place des procédés pour que des artistes puissent montrer le monde, des artistes ou des créateurs, montrer le monde différemment.
Dora Stiefelmeier.
Je lis d'abord une page que Gianfranco Baruchello a écrit pour nous. Il aurait bien voulu être avec nous, mais il est frappé par le feu de Saint-Antoine, ce qui est terrible, le diable au corps, et il ne pouvait pas bouger. Mais il a été très présent dès le début dans ce projet d'acte dont je vais parler tout à l'heure. Mais j'y tiens d'abord à vous lire, j'ai essayé de le lire en français, son petit texte, ce qu'il voulait nous montrer. Et je ne sais pas si on a ces images, mais on peut faire à moins. Donc, il voulait bien parler d'un projet qu'il a fait en 1973. Et je lis. L'idée centrale de Agricola Cornelia, que j'ai fondée en 1973, a été celle de juxtaposer ou bien de surposer à une activité telle que l'agriculture, avec ses modes de travail et ses expériences, une expérience de la pensée, du projet et du faire l'art. Dans ces années, j'ai utilisé l'art comme un coefficient pour accomplir des actions agricoles, cultiver, élever, produire. J'ai essayé de connaître ces deux modes et ces deux mondes qui, seulement en apparence, sont loin et indépendants l'un par rapport à l'autre. Avec Agricola Cornelia, j'ai essayé de formuler l'hypothèse d'un parallélisme entre les mécanismes et les raisons de l'agriculture et de l'art. Une analogie entre la valeur d'usage et la valeur d'échange dans le produit agricole et la valeur d'usage et la valeur d'échange du produit artistique. Tandis que la valeur d'échange concerne le prix du produit qui se reflète sur le dynamisme et les mécanismes qui sont à la base de la construction du marché, et c'est un aspect que je connais bien, la valeur d'usage concerne le besoin de projeter et de réaliser quelque chose. Si l'agriculteur produit de la nourriture pour répondre aux besoins de manger, l'artiste produit des œuvres pour répondre aux besoins de penser, de projeter, d'imaginer. Cette expérience que j'ai acquise en contact direct avec la nature, ces lieux, ces terrains cultivés, ces zones climatiques, ces forêts, ces animaux élevés, a eu pour moi comme effet collatéral et concret une augmentation de ma capacité d'analyse critique de la société. Dans mon cas, en conflit dans l'espace de ma longue existence, des éléments actifs qui représentent le peuple, mon espace mental poétique, c'est-à-dire mon langage et mon art. Pour cette rencontre entre producteurs et artistes, je souhaite que l'art puisse être le coefficient qui, à côté du produit, n'importe quel produit, produise un dépassement des limites en termes de quantité, de succès, d'augmentation des prix, que le monde de marché, qui est auto-référentiel, nous propose comme des données absolues. Alors voilà, c'est ce que j'aimerais encore vous le dire. Voilà, donc on a dit qu'on fait un petit historique, c'est Copinroute, ce voyage. On a commencé il y a plus de 10 ans avec l'envie de créer une plateforme qui crée une contamination entre artistes, producteurs et institutions publiques. Il y avait dans notre wagon de train, d'abord lui qui était le conducteur, il y avait Michelangelo Pistoletto qui est bien malheureux de ne pas venir ici parce qu'il est juste à côté au Louvre parce qu'il doit faire une exposition là, il ne pouvait pas bouger son rendez-vous, mais il vous envoie ses salutations. Après, il y avait nous, je dis nous, Mario Pieroni et moi-même. Donc, on a commencé ce débat. Après, chacun a un peu pris son chemin, non? Soit tu as fait UR et beaucoup de projets et beaucoup de collaborations avec l'entreprise très concrète d'ailleurs. Michelangelo Pistoletto a créé la Città dell'Arte et je pense que c'est vraiment un enfant de notre plateforme. Tout à fait. Je ne sais pas si vous serez d'accord à entendre ça, mais de toute façon, je pense que ça va produire beaucoup de choses. Mais récemment, on a dit qu'il faut créer de nouveau une table de conversation. Et ça, c'est la 5e. Et c'est toujours une confrontation entre des artistes et des producteurs. Mais je voudrais dire que pour moi, les artistes, c'est d'abord des producteurs. Encore avant de faire les œuvres, les chefs-d'œuvre, c'est des producteurs de vision, c'est des producteurs d'un œil nouveau sur la réalité, et enfin, c'est des producteurs d'un bien immatériel, et le reste, ça vient après. Alighieri Boetti disait une chose très joli dans un self-portrait qu'il avait fait avant de mourir. Il disait « La photocopie a été inventée par Caravage. » C'est créé par lui, parce qu'après il y a eu les caravagistes, vous dites. Et c'est pas qu'ils ont copié ses peintures, ils ont copié sa vision et sa modalité de se poser vis-à-vis du monde. Et évidemment, on a eu ça avec d'autres grands artistes qui ont créé un produit immatériel qui, après, a eu une histoire sociale, politique, culturelle. C'est mauvaise la parole culture, mais je l'utilise. Alors, avec la DAC, dans les 10 différents endroits, oui, il y avait aussi des cas. On a voulu créer une contamination et on voit que, d'une certaine façon, ça avance. Et je veux dire, je pense que l'artiste est un peu producteur, mais sûrement l'entrepreneur, c'est un peu artiste. Et je pense par exemple, celui qui le matin s'est réveillé a dit « le fast-food c'est une bêtise, ça fait mal, c'est mauvais, c'est du mauvais goût, on fait slow-food au lieu de fast-food ». C'est une inventation, cette inventation a pris le monde entier. Et ça, c'est la création d'une tête artistique aussi un peu. Mais je voulais dire, la dernière chose, on avait fait une table différente à Rome il y a à peu près 5 ans, Observatorio Cosmico, l'Observatoire Cosmique. Et on avait fait rencontrer des artistes avec des hommes et des femmes de la science. Et dans cette table, il y a eu Margherita Hack, qui est bien la plus grande astronome d'Italie. Elle a l'âge de monsieur et elle dirige encore l'observatoire de Trieste. Et donc elle a dit, mais écoutez, dans la découverte scientifique, il y a toujours le côté artistique. Il y a toujours l'invention, il y a toujours, il faut avoir un côté artistique pour arriver à quelque chose. C'est après que ça se distingue à travers une méthodologie différente, à travers des démarches différentes. Et donc, voilà notre table d'accès un peu de nous réunir et de voir ce que ça peut porter à chaque catégorie.
Et DAC, ça veut dire quoi en fait?
Alors, oui, dénomination artistique partagée. Oui. Je pense qu'il faut donner la parole au producteur.
Oui.
Fabrice Hibert.
Alors, qu'est-ce que. Alors, justement, on parlait de comment mettre en rapport les artistes et les producteurs. Alors, il faut trouver des moyens pour le faire. Donc, on a imaginé avec Pierre-Jean Caldin, qui est directeur de l'École des Beaux-Arts de Nantes, de monter la première structure, école, pour créer cette école de réalisateurs, qui sont des gens qui vont réaliser cet échange entre les artistes et les producteurs. Pierre-Jean, tu pourras en parler.
Pierre-Jean Caldin.
Moi, je me suis toujours attaché dans mon parcours à soutenir des projets avec des entrepreneurs, mais voilà, des entrepreneurs qui ont plutôt un lien fort avec les artistes. Donc, j'ai créé à Blois il y a quelques années avec Éric Fabre. C'est pour ça que je suis content d'être ici, le musée de l'objet qui nous a prêté sa collection pour 15 ans de manière totalement libre. Et c'est un des rares marchands français qui a soutenu fortement Yves Dorizou, qui a aidé pendant de nombreuses années Maurice Lemaître, qui a été, voilà, ce type de figure est dans un projet ultra simple, qui a coûté très peu cher, 1 million d'euros à l'époque. On a eu le plaisir, dans cette petite ville du Val-de-Loire, d'avoir une collection extraordinaire pendant 15 ans. Je travaille maintenant aussi avec Ben et Gino Di Maggio pour essayer de créer quelque chose sur Fluxus en France, qui est aussi un mouvement qui a peu été présenté. Et voilà, justement, c'est pour ça que je suis doublement et Jacques Lizen, et enfin on retrouve des croisements avec des artistes et des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi, avec Hervé Di Rosa, créé quelque chose qui s'appelle le Musée international des arts modestes à Sète, qui est aussi un projet d'artistes qui était plutôt marginaux par rapport à l'institution. Et à Nantes, aujourd'hui, je dirige l'École des Beaux-Arts et le projet que porte Fabrice de soutenir à la fois une nouvelle manière de produire, je trouve est absolument exemplaire et très fort pour faire rebondir le métier que je fais, c'est-à-dire essayer de former des artistes, ce qui est une gageure et qui peut ne pas avoir de sens si le justement ne se met pas dans une nouvelle manière de leur donner cette autonomie. Comment être autonome? Comment trouver de la liberté? C'est ça la question. Et cette question, elle se pense à la fois dans l'école, naturellement, dans l'institution, mais elle doit se penser aussi en dehors de l'institution. Et donc, dans cette liberté, dans ces croisements. Et on va créer cette petite école dans l'école qui va faire se rencontrer des jeunes artistes, mais aussi peut-être des jeunes entrepreneurs, puisqu'on fait ça avec une école de commerce, qui est l'école Audencia, qui est une très belle école de commerce à Nantes, qui a un parcours très atypique dans les écoles de commerce, qui a plus d'étudiants presque de Cagne-Hippocagne que des prépas de finance, et qui cherche justement à former de nouveaux managers, à avoir une nouvelle mode de réflexion sur l'entrepreneuriat. Et donc ces deux écoles, les carpes et le lapin, les lapins et les carpes vont s'associer. Derrière Fabrice, pour essayer de réinventer cette manière de produire, de trouver les moyens de produire des œuvres et des environnements.
Fabrice Hibert.
Et pour ça, l'école est basée sur la chose suivante, c'est-à-dire qu'il y a un lieu qu'on a trouvé déjà, le premier lieu, qui est un lieu très public, à la fois très public et très privé. Très public pour qu'on montre les projets au public, et très privé pour que les gens, les réalisateurs, les étudiants puissent y travailler. Et puis ce lieu est à la fois... Les étudiants on retrouve à la fois un enseignement de l'École des Beaux-Arts et de l'École de Commerce de la ville, et puis les boursiers sont financés par les entreprises ou les projets entrepreneuriaux qui viennent de l'extérieur. Et pour ça, on avait mis en place ce projet avec Rhizome, que toi, c'est Mélanie.
Mélanie Rio.
C'est lancé par la galerie Mélanie Rio à Nantes. Et c'est un projet avec une société de réfléchir avec Fabrice à comment un comment travailler justement avec des artistes? Qu'est-ce qu'un artiste peut apporter au sein d'une entreprise? Et quel regard il peut apporter? Donc, on a des gens de secteurs très différents, milieu bancaire, dans la communication, architecture. Et voilà, on a commencé à travailler là-dessus. Et donc, Pierre-Jean m'a proposé également, avec Rhizome, de soutenir le projet des ventilateurs en intégrant ce groupe Rhizome au projet de l'école.
Lorenzo Benedetti.
Lorenzo, tu voudrais parler un petit peu de ton projet?
Oui, non, c'est le projet à Pâques. C'était intéressant, la table ronde avec une exposition où il y a eu des artistes des projets qui ont se confronté avec cette idée de la production. Par exemple, un projet qui a montré, c'est le Sound Art Museum, qui est aussi avec la radio, qui est un projet de radio Arte Mobile. C'est intéressant l'idée de musée sans bâtiment. C'est intéressant d'avoir une entité de quelque chose qui n'a pas vraiment besoin d'un bâtiment, mais c'est un contenu qui peut bouger, et c'est cette idée de montrer quelque chose qui contextualise un lieu. Ça c'est intéressant sur l'idée de production. Dans l'exposition, il y a eu deux artistes, Pierre Robbins et Jean Kermelin, c'est un artiste belge et hollandais, et ont produit deux éléments très importants qui ont fait part de deux paramètres de l'artiste qu'il produit. C'est une table, il y a un peu d'image qu'on peut voir là. Il y a les tables faites par Jean Kermelin, que c'est un lieu aussi de travail, mais aussi un lieu de discussion. Et l'autre œuvre, c'est l'atelier de Pierre Robbins, qui se trouve à Charleroi, en Belgique, qui est une grande usine. Il a acheté quelques ans où il travaille. Et c'est le lieu de production, c'est le lieu de réalisation de l'artiste, c'est l'endroit qu'il a créé un modèle, une maquette de ce lieu. Et ça, c'est intéressant, où est-ce que ça l'œuvre, lieu de la pensée, de la production. L'autre artiste, il y a Lim, qui a travaillé sur la relation entre la globalisation et la situation locale. Et ça, je trouve aussi très important, cette idée de trouver une diffusion entre les deux, de développer quelque chose. Et je pense que c'est intéressant, l'idée qui est les producteurs. Et ça, c'est un thème intéressant. Les producteurs, je pense, c'est pas seulement l'artiste qui produit une œuvre, mais la production devient aussi le moment que l'œuvre se trouve dans l'exposition. La production devient aussi avec la visibilité de l'œuvre. Alors, le visiteur, le spectateur devient un producteur de quelque chose. Alors, l'œuvre devient un miroir, et il n'y a pas vraiment de consommation, non, de l'œuvre. Mais c'est plutôt quelque chose qui s'est produit. Alors, je trouve intéressant l'idée du contexte d'exposition, c'est un contexte où il y a une forme de production par les regards, par la visite, et ça je trouve que c'est une idée de voir sa construction de produit, de l'art, que c'est un produit qui se travaille aussi avec les temps. Je pense aussi une raison que les artistes utilisent une technologie qui n'est pas plus contemporaine. Non, un artiste qui peut utiliser une 16 mm aujourd'hui, quand on a une technologie très développée. Et une des raisons que je pense importante, c'est qu'un produit de l'artiste, c'est l'idée du temps. Non, que c'est intéressant parce qu'il faut avoir un espace, mais aussi le temps. Alors, pour un artiste utiliser une 16 mm aujourd'hui, c'est presque pareil à une nouvelle technologie digitale si on pense que cette œuvre doit avoir une valeur dans 40 ans. Non, dans 40 ans, la technologie d'aujourd'hui, les 16 mm n'ont presque pas de différence. Non. Alors ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi l'artiste n'est pas vraiment lié seulement à la technologie d'aujourd'hui, comme la société contemporaine, mais il y a une dimension du temps qui est plus complexe et qu'il y a l'idée de survivre. Non, alors ça, je trouve que c'est intéressant de la production de l'artiste aussi, une production qui se développe dans le temps et à travers l'utilisation, que c'est pas directement une consommation, mais c'est une continuation de production.
Stanislas Potier.
Aussi toute cette réflexion sur les parallélismes de processus de production, de processus de consommation, d'ailleurs, ou de non-consommation, et puis de production de sens, pas uniquement pour une banque, mais pour l'ensemble du monde économique aujourd'hui. Tout le mouvement de développement durable, c'est effectivement, là je trouve qu'il y a des connexions à faire, ça réinvente un sens et une place de l'entrepreneur, de l'entreprise dans la société, qui ont existé à certaines époques, à certains endroits, pas toujours, pas enfin, de façon différente, et qui maintenant doivent devenir quelque chose de quasiment normal, parce qu'on leur demande, parce que la société le demande davantage, parce que les expressions de la société, c'est-à-dire les autorités publiques et les réglementations qu'elles font, le demandent également. Et ça, c'est très difficile de le faire sans tomber dans l'artificiel, dans l'anecdotique, dans le superficiel, et de le construire comme quelque chose de vraiment naturel, en fait, par rapport à ce que fait l'entreprise et par rapport à sa place dans la société. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir des yeux complètement... On a fait des choses dans un univers, Fabrice, que tu ne connaissais pas très très bien il y a quelques années au ministère des Finances. Et on trouvait toujours spectaculaire de voir la façon dont sur des sujets parfois abscons, une intuition artistique pouvait provoquer une nouvelle vision et déclencher autre chose chez les spécialistes aussi, et repartir sur une nouvelle trace. J'ai pas encore vu d'exemple, là ça existe, hein, avec des artistes. C'est plutôt des compétences toujours prises dans le domaine entrepreneurial au sens large. L'entrepreneur, hein, parce que l'artiste aussi apporte quelque chose il peut détruire un certain nombre de codes bien établis, etc. dans une entreprise. Les entreprises n'aiment pas trop la remise en question, hein. Elles ont un discours sur la remise en question, mais quand il s'agit de la faire, c'est compliqué. Et puis il y a un aspect, je trouve, territoire aussi, et ancrage dans un écosystème un peu local, qui ring the bell, comme on dit, pour le Crédit Agricole, qui est une banque qui a ses 39 banques réparties en France, et Audencia en plus, c'est une école avec laquelle on a des liens très forts. Mais bon, j'ai du mal à trouver pour le moment les choses un peu concrètes comme ça, mais c'est vrai que je trouve très intéressant l'idée de discuter à bâton rompu comme ça et d'essayer de trouver des nouvelles approches, des visions en rupture, parce que c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. Chacun est dans son rythme, qui est un rythme souvent d'urgence, ce qui rend encore plus compliqué prendre du recul et de soi-même avoir une vision inventive sur les choses dont on a la charge, dans lesquelles on est. Donc tout d'un coup, avoir quelqu'un d'extérieur qui dit « passe », ça c'est formidable.
Jean-Baptiste de Cavel.
Pour moi, ma production, elle peut pas être totalement liée à la question de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui est déterminant par rapport à la réalisation du projet, c'est avant tout ce que le projet va engager. Quand Jean-Franco parle de la valeur d'échange, pour moi c'est indiscutable que la valeur d'échange, c'est pas l'argent. Parce que la valeur d'échange d'un projet qui pourrait être fait en commun, au final, évidemment, ça engage de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour produire, on sait tous ça, mais la valeur d'échange, c'est la valeur de la pensée. La valeur d'échange, c'est ce qui va surgir de la collaboration de toutes ces personnes. Et je ne sais pas, c'est sûr, au niveau d'une entreprise, ce que ça peut représenter, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas contraint à un résultat économique concret. Et je pense qu'en plus, maintenant, on est dans une période de crise assez radicale, et nécessairement, il faut reconsidérer les modèles. C'est ce que l'idée commune d'ensemble, ça crée une forme inattendue et surtout qui dépasse mes compétences et qui dépasse ma capacité à mettre en place un film ou autre chose. Et voilà.
Yona Friedman.
Je parlais du 19e siècle. Le 19e siècle a été la séparation des choses, les disciplines séparées, tout séparé. La vie quotidienne a tombé en morceaux. Le 21e siècle, ou plus exactement, la deuxième partie du 20e siècle, nous fait comprendre que toutes les choses sont liées. Il n'y a rien isolé et rien séparé. Et C'est le, quand on parle de la globalisation de l'économie, c'est seulement une parodie. Mais aujourd'hui, tout savoir, toute pensée est liée à des autres. Il est impossible qu'un artiste ne connaisse pas la physique et qu'un physicien ne connaisse pas l'économie. Tout est lié. Et de cette raison, moi je trouve, c'est pas tellement des projets, c'est pas tellement de l'objet, mais déclencher un processus.
Françoise Guichon.
Il faut pas placer la notion de production hors de la notion de produit. Et de façon très 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 claire, quoi. Et d'introduire comme de cette façon communauté d'intérêt dans le processus, dans la notion de processus immatériel. Plus la notion de non plus de prof, la notion de profit se transforme aussi par le fait. Le profit n'est plus un profit d'une autre nature et il peut inclure les notions d'expérience, de perte.
Arnaud Lejeune.
Je me définis comme entrepreneur, mais j'ai monté qu'une entreprise pour le moment et que j'ai revendue, donc j'espère devenir serial entrepreneur. Je découvre un peu que je suis artiste sans le savoir, puisque j'ai monté mon entreprise sur une vision il y a 10 ans, une vision qui avait qu'il y a trop de voitures dans les rues, que les voitures ont préempté l'espace urbain, pollue notre air que nous respirons. Et j'ai voulu être un acteur de ce changement. Ça prend beaucoup de temps de changer des comportements. Je pense que le développement durable, c'est un guide pour un entrepreneur pour savoir dans quelle direction aller, pour que sa vision trouve un support. Mais ensuite, le temps, c'est quelque chose de crucial pour un entrepreneur, parce que le temps, c'est il y a un temps long et il y a un temps très court. Il y a des phases existentielles de choix d'un projet, et ensuite des phases opérationnelles où il n'y a plus le temps. La phase existentielle finalement est très propice à la définition du projet, à la rencontre d'artistes pour partager la vision, l'enrichir. La phase, je parle de la petite entreprise, je vais expliquer pourquoi. Je pense que la grande entreprise que je connais moins est différente. Mais la phase opérationnelle ensuite est prise de recrutement, de recherche de financement, de développement de produits. Quand on a la tête dans le guidon avec les journées de 16 heures, ensuite on a plus le temps. Et c'est pour ça que la phase de création de la petite entreprise est très importante pour bien positionner le projet, et que c'est crucial à ce moment-là de s'entourer des bonnes réflexions. Il y a le temps dans une petite entreprise, c'est aussi le temps de vie du produit. La technologie va périmer. L'entreprise que j'ai montée, c'était une entreprise technologique de développement de voitures partagées. Les technologies dont on parle, elles ont une durée de vie de 3 ans, de 5 ans. Et l'entreprise, au-delà de ça, doit se réinventer. La particularité de la petite entreprise, c'est que généralement, elle se réinvente pas. C'est rare que la petite entreprise devienne l'immense entreprise. La petite entreprise, généralement, soit fait défaut, s'arrête, soit se fait racheter, ou a du mal à se développer. C'est très dur quand on met beaucoup d'énergie dans un projet, dans une technologie, de devoir la réinventer après 3 à 5 ans parce que les outils technologiques ont changé. Donc d'une part, il y a le temps très long de l'horizon du développement durable et de ce qu'on pense va être la transformation de la société dans 10 ans. D'autre part, la date de péremption de la technologie qu'on va déployer. Le temps très court de la trésorerie qui tous les mois nous dit qu'il faut payer les employés et qu'il faut finalement relever des fonds. Et donc j'ai vécu l'entrepreneuriat comme une bagarre entre un temps très court et une attente d'un temps très long finalement, une grande attente. Et à l'extrême, la cession de la société qui a une succession de nuits blanches. Pour retomber ensuite dans une démarche existentielle à nouveau et un temps très long. Je pense que dans la grande entreprise, c'est différent. Je ne la connais pas bien, puisque je n'ai été que dans la petite et pendant 2 années dans la grande qui a racheté mon entreprise. Mais dans la grande entreprise, il y a plusieurs projets en parallèle, plusieurs produits, plusieurs technologies, plusieurs marchés. Et donc ce cycle de temps de 5 ans ou 7 ans, parce que je n'ai pas parlé aussi du temps du financier qui va investir dans la petite entreprise et qui veut récupérer ses billes dans 5 ans, dans 7 ans. Donc tout ça doit tourner. Dans la grande entreprise, j'espère qu'il y a une réinvention en permanence et pas simplement le fait des crises. Je suis fasciné de voir que, par exemple, les dizaines de milliards de revenus de Microsoft de vente de licences sont mis à mal, ont été attaqués d'abord par l'open source et ensuite par les logiciels en ligne gratuits de Google, par exemple, l'industrie du disque qui se réinvente. Tout ça, ce sont des industries qui se réinventent sous le fait de crise, mais l'entreprise doit réinventer ses produits, réinventer à des comités de direction, des comités de marketing, des comités d'innovation. Ce sont bien dans ces comités, dans ces cellules.
Giuliana Setari.
Nous sommes dans un moment historique très complexe, avec la crise économique est véritablement sérieuse, qui ne va pas améliorer, mais va empirer dans tous les pays, la France est plus. Nous voyons que les valeurs qui sont mises, sont portées à l'avant par la communication, les apports de la hiérarchie, sur les ventes de chaînes, la création artistique elle-même, elle est regardée par le grand public. Parce que la communication reporte. La communication ne reporte pas des rencontres comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La communication ne reporte pas l'historique de cette belle expérience que Dor et Mario, Fabrice, ou bien Michelangelo Pistolet, qui fait des débats, dont je fais partie également, reporte. Et c'est ça un peu le problème. Moi, je crois que j'ai beaucoup aimé, comme vous disiez, de faire une exposition de 250 km de long, une exposition dans les arbres, dans la nature. La proposition d'il y a quelques années, quand c'était question du choix de la ville pour les Jeux Olympiques, d'utiliser ce qu'il y a. Grâce au pistolet, il faut préparer le monde. Il faut utiliser ce qu'on a. Mais c'est le marge d'attention que la communication porte à cette mentalité.
Dora Stiefelmeier.
Mais ce qui est important, selon moi, c'est vraiment qu'on a appris qu'on ne doit plus faire la table rase. On doit mêler les expériences, pas les nier, essayer de trouver une nouvelle cuisine. Parce que, voilà, on a eu beaucoup d'exemples catastrophiques de gens qui ont voulu repartir du zéro, et ça, il ne faut pas faire. Et je crois que cette table a un peu prouvé qu'on peut vraiment se mélanger et s'enrichir mutuellement.
www.radioartemobile.it/phase2